Voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission Les Oreilles Loin du Front. Et Juliette, ce soir, on parle du planning familial.
Ben oui, le planning familial, puisque là, ce genre de manifestations, jouir plutôt que reproduire, on pouvait les entendre en début d'année, puisque le gouvernement avait décidé de se désengager du planning familial en réduisant d'un tiers le budget. Finalement, tout s'est mis... manifestation ou aboutit à un sursis, en tout cas au niveau budgétaire. Mais bon, la lutte continue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce planning a toute une histoire, bien évidemment. Et cela a commencé dans les années 50 avec ce joli nom de maternité heureuse. La maternité heureuse, c'était une manière polie et bien policée de lutter pour la défense des droits des femmes, mais surtout pour parler de contraception, puisqu'il était à l'époque totalement interdit de parler de contraception. Évidemment, l'avortement était illégal. Il y avait à peu près plus d'une femme par jour qui mourait à cause de l'avortement dans les années 50-60. Et la lutte justement pour l'obtention de ces droits a été vraiment très rude. Elle a concerné toute la population, que ce soit toutes les classes sociales, mais aussi les hommes et les femmes. Et tout ça a commencé dans les années 50 avec la maternité heureuse. Et cela s'est terminé avec... cela ne s'est pas terminé puisque la lutte continue toujours, mais a abouti à quand même la loi Veil qui a légalisé l'avortement. Et dans les années 60-70, avec les mouvements sociaux, avec évidemment le MLF, avec le MLAC, c'était vraiment un sujet d'actualité très, très présent dans les médias, mais aussi au niveau militant. Et pour raconter cette histoire du planning familial et aussi des mouvements féministes et du lien entre planning et mouvements féministes, j'ai rencontré Bibia Pavard. Bibia Pavard qui fait une thèse intitulée « La contraception et l'avortement en France du milieu des années 50 au milieu des années 80 ». Et on parlera donc de maternité heureuse, de loi Neuwirth, de planning familial, de MLF, du MLAC et de toutes sortes de choses de ce style-là.
Bonsoir.
Alors aujourd'hui, nous avons discuté avec Bibia Pavard, qui est donc historienne, et vous travaillez, vous faites une thèse sur l'histoire du planning.
C'est un peu plus large, donc je travaille sur les questions de contraception et d'avortement en France du milieu des années 50 à 1982, le planning familial étant effectivement un acteur central pour ma thèse, oui.
Et alors, quand on parle de planning familial et de contraception, forcément, c'est qu'il y a une situation avant, c'est-à-dire qu'avant les années 50, quelles étaient les lois qui régissaient la contraception et l'avortement ?
Alors, c'est la fameuse loi de 1920, celle qu'on appelle la loi de 1920, qui est donc une loi qui interdit à la fois toute publicité sur les moyens de contraception et qui pénalise donc les pratiques d'avortement. En fait, il ne s'agit pas d'une seule loi. Il y a plusieurs lois qui ont été votées successivement à partir de 1920. Mais c'est cette loi qui fait un tournant. C'est une loi votée juste après la Première Guerre mondiale, dans un contexte donc de lourdes pertes démographiques et de grosses inquiétudes justement sur l'avenir de la France et sur la nécessité de faire des enfants, des petits Français pour éventuellement aller se battre contre les Allemands. Donc on est encore dans cette culture de guerre de la Première Guerre mondiale. Et donc c'est une loi très restrictive qui n'empêche pas d'avoir certaines pratiques de contraception dans la réalité. Hein. Les couples français justement... connaissent les pratiques de contraception depuis très longtemps et la pratique la plus courante, c'est celle qu'on appelle du coït interrompu, donc qui fonctionne plus ou moins bien pour éviter d'avoir des enfants. Mais alors, ce qui apparaît avec le planning familial, c'est après la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle façon de concevoir le bien-être, la médecine. On est dans un nouveau contexte, hein, donc celui de l'après-Seconde Guerre mondiale, donc de l'après Holocauste, une volonté de reconstruire, une volonté aussi de construire un État social, un État-providence. Et donc, il y a toute une série d'acteurs qui s'intéressent à la santé comme bien-être. Et donc, c'est dans ce contexte-là, qui est aussi celui du baby-boom, que va émerger cette idée du planning familial en France.
Et justement, la première association qui s'occupe de ça s'appelle la Maternité Heureuse.
Effectivement, c'est assez paradoxal. On a tendance à oublier cette première association qui est effectivement née en 1956 et qui est une association très intéressante parce que elle veut implanter les idées de contrôle des naissances, hein, c'est le terme qu'on utilise à l'époque. Donc de planning familial, ce sont des idées qui ont été développées dans les pays anglo-saxons depuis les années 30 justement, mais qui est consciente de cette contrainte légale. Donc l'idée, c'est de faire une association qui paraisse très respectable. Donc du coup, le nom est respectable, hein, maternité heureuse, on ne met pas du tout en avant l'idée de contrôle des naissances ou de contraception. Et c'est une association uniquement de femmes, à un statut social élevé. Donc la fondatrice, c'est Marie-Andrée Lagroix-Avelallée, qui est donc médecin gynécologue, et qui s'associe avec Évine Sulereau, qui à ce moment-là est une mère de famille nombreuse, qui a décidé de reprendre des études de sociologie. Et donc à elle seule, elle représente effectivement cette mère de famille du baby-boom. Elles sont une trentaine d'années à ce moment-là, une trentaine, quarantaine d'années. Et donc elle s'associe à des femmes d'hommes politiques ou des femmes de médecins ou alors des femmes intellectuelles qui ont déjà une certaine respectabilité, comme par exemple Clara Malraux. C'est une association de mères de famille très respectable qui est déposée, dont les statuts sont déposés le 8 mars 1956 à la préfecture. Alors, il paraîtrait que c'est une coïncidence, hein, ce ne serait pas le jour de la femme qui est mis en avant, mais en tout cas, ça montre à quel point il fallait à ce moment-là être très très prudent. Il y avait une peur d'être tout de suite interrompu dans cette volonté de développer le planning familial en France. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble des personnes qui justement vont s'intéresser à ces questions sont des mères de famille, mais aussi des personnes qui ont voyagé, qui ont été en Angleterre, qui ont été en contact avec les États-Unis et qui donc ont conscience que ça se passe autrement dans les autres pays et ont envie d'importer ça en France.
Et justement, quelle est la situation, par exemple, en Angleterre, aux États-Unis, parce qu'on dit souvent les femmes riches allaient avorter en Angleterre.
Oui, alors, dans les années 1950, en fait, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a déjà des associations de promotion du contrôle des naissances, de planning familial, qui existent aux États-Unis et en France, aux États-Unis, pardon, et en Angleterre. Donc, l'avortement n'est pas encore autorisé, ça viendra plus tard dans les années 60-70. Mais effectivement, cette idée de planning familial a déjà fait son chemin. Il y a déjà des associations qui ont pignon sur rue, qui sont autorisées. Et aussi, ce qu'il y a, c'est une association mondiale, enfin internationale, qui est née aux États-Unis et qui s'appelle l'International Planned Parenthood Federation, qui a pour but justement de promouvoir la création de planning familiaux locaux dans les différents pays du monde. Et qui bénéficie de financements importants, notamment de la fondation Rockefeller, avec cette idée que, en fait, ce qu'il y a derrière, c'est la peur d'une surpopulation mondiale. Et donc il y a vraiment un petit peu une vision malthusienne, surtout pour les pays du sud économique, mais qui va permettre finalement à la France de s'appuyer sur ce réseau international pour notamment la formation de médecins au départ. Donc c'est une sorte de, on pourrait dire, de transfert culturel qui va se faire vers la France.
Et quelles sont les pratiques que prône la maternité heureuse en matière de contraception ?
Alors à ce moment-là, c'est très très timoré en fait ce que la maternité heureuse va mettre en avant. c'est la volonté de créer des familles équilibrées, et donc avec l'idée qu'on ne va pas faire moins d'enfants, mais on va pouvoir choisir le moment dans lequel on va vouloir les faire. Donc il n'y a absolument pas d'idée malthusienne, au contraire, hein, on reste dans cette idéologie nataliste, hein, qui est très présente en France. Et donc à ce moment-là, les moyens de contraception qui vont être mis en avant, ce sont principalement les diaphragmes qui sont donc achetés en Angleterre, importés parfois clandestinement pour être revendus donc aux adhérents de l'association. Alors là, il va y avoir en fait un montage juridique assez intéressant, c'est que effectivement, pour éviter de tomber sous le coup de la loi de 1920 et de l'idée justement de propagande, il va falloir pousser à l'adhésion et que ce soit des adhérents qui donc bénéficient de ces informations et de ces conseils sur la contraception, donc ça ne tombe pas sous le coup de la propagande. Et donc là, en fait, c'est au départ, c'est vraiment quelques personnes qui s'intéressent à ces questions, et puis au fur et à mesure, c'est quand même une association qui va grandir, et donc qui, à partir du début des années 60, va s'ouvrir à une autre population, notamment aux médecins, et donc il va y avoir une entrée massive de médecins et d'hommes. Et donc là, il va y avoir un rééquilibrage, et c'est à partir de ce moment-là que l'appellation va être changée, et qu'on va passer au nom de Mouvement français pour le planning familial.
Et quand on parle des années 60 aussi d'un point de vue des mœurs, il y a aussi toute une évolution. Par exemple, bon, évidemment, il y a mai 68, mais est-ce que le planning est investi dans les luttes sociales ?
Alors, le planning familial, au contraire, essaye d'avoir un positionnement neutre d'un point de vue politique et religieux. C'est vraiment l'idée, au départ, c'est d'être vraiment œcuménique et de pouvoir toucher toutes sortes de populations. Alors après, c'est vrai que les personnes qui s'y engagent ont effectivement d'autres engagements politiques. Il y a différentes mouvances qui s'y retrouvent. On trouve notamment une mouvance protestante assez marquée, et également une mouvance de centre-gauche et une mouvance laïque très importante qui voit dans cette question du planning familial un moyen de lutter contre l'influence de l'Église sur la société. Donc il y a notamment une partie des premiers adhérents ou des premiers militants plutôt, qui sont issus de la franc-maçonnerie et qui ont pour objectif de développer cette question du contrôle des naissances dans la franc-maçonnerie et en dehors. Donc toutes ces mouvances se retrouvent, et donc pour pouvoir attirer le plus de personnes et pour pouvoir aussi se positionner comme une sorte de service social, évite un positionnement politique fort. Par contre, il va y avoir un tournant en 1965. C'est le moment où François Mitterrand, lors des élections présidentielles, prend position sur cette question de la contraception, et dit ouvertement que s'il est élu, il changera la loi de 1920 et autorisera la contraception. Donc à partir de ce moment-là, il y a vraiment un soutien à gauche assez, assez franc et massif, mais ce n'est pas encore vraiment un engagement politique, c'est encore une association qui se veut, comme je le disais, assez neutre politiquement. Par contre, ce qui, d'un point de vue de l'évolution des mœurs, ce qui est très important à partir du milieu des années 60, c'est le développement de l'idée d'éducation sexuelle, donc auprès des jeunes. Et c'est une question qui va être un peu délicate au départ, parce qu'effectivement, est-ce qu'on peut donner des conseils de contraception à des couples non mariés, ce qui n'était pas du tout le cas au départ. On s'adressait à des familles, avec toujours cette idée de respectabilité, des familles mariées, des couples mariés. Donc là, à partir des années 65, 66, 67, on s'intéresse donc aux jeunes et aux couples non mariés. Et il y a vraiment aussi cette idée de plaisir sexuel aussi qui émerge, et notamment du plaisir des femmes. Donc il y a toute une réflexion d'une génération de sexologues qui est formée, qui a un rôle important dans ce planning familial, et qui va faire progresser les mœurs au niveau de la sexualité, notamment en traduisant et en apportant les réflexions de sexologues américains, notamment Masters et Johnson, qui mettent en avant cette idée d'orgasme dès le milieu des années 60. Donc c'est vrai que le planning familial, là, a un rôle important autour de cette idée de plaisir et le fait qu'en fait la contraception permet d'accéder au plaisir sexuel, alors que lorsqu'on a peur d'avoir un enfant, on ne peut pas y accéder justement. Donc c'est plutôt à ce niveau-là qu'on peut parler de progressisme social. Le tournant politique, lui, survient plus tard. Disons que 67 est une année importante, c'est l'année du vote de la loi Neuwirth, donc de la loi qui autorise la contraception, sa vente, pas sa publicité, mais en tout cas sa diffusion.
C'est-à-dire la pilule, en fait.
Voilà, alors c'est-à-dire qu'effectivement, ça correspond en France au moment de l'émergence de ce nouveau type de contraception, la pilule. Donc on va associer la loi Neuwirth à la pilule, effectivement. Même si, dans les faits, l'utilisation de la pilule devient courante qu'à la fin des années 70. Donc c'est encore quelque chose qui est peu diffusé. Mais c'est vraiment l'arrivée médiatique de la pilule, le symbole qu'elle représente aussi, on commence à l'associer à une certaine libération sexuelle, une libération des femmes. Mais le planning familial ne s'inscrit pas du tout dans ces luttes politiques, ou dans, notamment ne prend pas position sur mai 68. C'est finalement avec l'entrée de certains militants de base dans le planning familial, notamment tout un mouvement qui soutient les questions d'éducation populaire, et c'est aussi à la base le rôle de ce qu'on appelait à l'époque les hôtesses d'accueil, qui vont être sensibilisées justement à certains mouvements politiques, parce qu'elles sont plus proches de ces mouvements politiques, elles sont en contact avec la population. Certaines vont commencer à s'intéresser au mouvement féministe naissant au début des années 70. Donc il va y avoir un tournant politique à ce moment-là, mais pas du tout en 68, hein. C'est un peu plus tardif.
Quand tu parlais des hôtesses d'accueil, c'est quoi exactement ? Parce que ça fonctionne comment ? Parce que voilà, si c'est une adhésion, est-ce que c'est totalement virtuel ou est-ce que les gens se rencontrent de temps en temps ?
Non, en fait, les personnes qui doivent adhérer sont les personnes qui viennent consulter au planning familial. En fait, j'ai obligé de dire effectivement que ce qui provoque le développement massif du planning familial, c'est qu'en 1961 est ouverte la première permanence à Grenoble par un médecin du planning familial, donc. Et donc qui se propose d'accueillir des femmes en consultation pour leur proposer des moyens de contraception. Et c'est à partir de ce moment-là que vont se développer très rapidement les permanences partout en France, et que ça va faire du mouvement un mouvement national. Et donc pour ouvrir ces permanences, il faut forcément à ce moment-là un médecin et ce qu'on appelle les hôtesses d'accueil, donc des femmes souvent bénévoles qui vont se charger de cet accueil. Donc les écouter, leur parler de leurs problèmes de sexualité ou de leur questionnement, et tandis que le médecin fait lui l'ordonnance qui va permettre de commander les moyens de contraception. Mais il y a vraiment un travail d'écoute, de dialogue qui se fait au niveau de ces hôtesses d'accueil, et donc qui sont de plus en plus nombreuses, qui au fil des années vont être formées. Il va y avoir vraiment une volonté de formation unifiée. Elles sont vraiment, on pourrait dire, le nerf de la guerre du mouvement français pour le planning familial. Par contre, effectivement, c'est un mouvement qui est extrêmement hiérarchisé, dans lequel les médecins ont quand même le rôle de premier plan. Ce sont eux qui sont la présidente jusqu'en 67, c'est Marie-Andrée Lagrovet-Lallée, donc qui est médecin. Dans le bureau national, ce sont principalement des médecins, donc elles ne sont pas vraiment représentées dans les instances dirigeantes. Et ça va commencer à poser problème justement après 68, où elles vont commencer à revendiquer un statut, un droit de cité. En tout cas, elles ne veulent plus s'appeler hôtesse d'accueil, et il va y avoir certains hommes qui vont devenir assistants, conseillers, en fait, c'est le nouveau nom. Donc il y a vraiment un mouvement qui se fait du bas vers le haut, finalement, et qui va amener ces questionnements d'éducation populaire, de volonté de s'allier à d'autres forces, c'est-à-dire notamment syndicats, en essayant de s'implanter dans l'éducation nationale. Donc il y a toujours, on a parlé de la loi Neuwirth, donc il y a une volonté de toucher les élites politiques pour pouvoir changer la loi, mais aussi une volonté de toucher à la base tous les mouvements d'éducation qui permettent de diffuser plus largement une idée. Une volonté aussi d'appuyer sur les médias, ça a été très important. Il y a vraiment eu un soutien des médias dès le départ, que ce soit la presse magazine de gauche, notamment Le Nouvel Observateur ou L'Express, qui ont vraiment soutenu le planning familial. Ensuite, la télévision, il y a cette volonté de faire passer un message au plus grand nombre, tout en négociant avec l'élite politique, qui est accessible parce que c'est un mouvement respectable, parce que c'est un mouvement qui a des liens avec la franc-maçonnerie, parce que c'est un mouvement de médecins, et même de médecins extrêmement reconnus. Il va y avoir à partir de 1965 des soutiens qui vont venir de, par exemple, des prix Nobel. Donc il va vraiment y avoir une construction de cette respectabilité, et donc un mouvement qui commence à être extrêmement connu à la fin des années 60.
Et justement, si ce mouvement commence à être de plus en plus connu, qui sont les usagers des centres de planning familial?
Alors par contre, ça commence à être une frustration à partir de la fin des années 60, c'est qu'on s'aperçoit que cela touche finalement une élite, et que ce sont principalement, disons, les classes moyennes éduquées qui ont le réflexe de venir au planning familial pour les consultations, et donc principalement les enseignants et enseignantes, les fonctionnaires, et ce sont des gens qui sont effectivement aussi engagés dans un combat laïque. Et donc il y a vraiment un déficit populaire qui commence à être très visible à partir de 68, et donc ça explique la volonté de se tourner vers les syndicats, vers les partis politiques de gauche, pour essayer justement de toucher une base plus large.
Et alors comment s'est fait ce tournant entre le passage de la maternité heureuse au côté plus politique du planning?
Alors c'est vraiment par cette... C'est un mouvement très intéressant en fait, parce qu'il va y avoir une stabilité dans la forme et en même temps une mutation interne assez importante. Donc il va y avoir progressivement un rôle de plus en plus important des hôtesses d'accueil qui vont prendre des responsabilités au début des années 70. L'émergence d'une plus jeune génération qui va aussi prendre des responsabilités, et notamment venue de ces courants d'éducation populaire, donc qui vont faire le lien avec les syndicats. Mais la rupture a véritablement lieu en 1973. Là, c'est vraiment l'année marquante. C'est le moment où il va y avoir, en s'appuyant sur les luttes sociales extérieures autour de l'avortement, un renversement politique à l'intérieur du planning familial. Donc il va y avoir une contestation très très forte du pouvoir médical à l'intérieur du mouvement, qui va se traduire par un congrès national en juin, dans lequel il va y avoir une inscription faramineuse de militants qui vont prendre leur carte à ce moment-là, et donc voter pour un nouveau bureau, un nouveau conseil d'administration, qui est composé cette fois-ci de militants de base et qui réfute justement cette idée du pouvoir médical. Et à ce moment-là, les médecins, qui étaient engagés depuis des années, qui représentaient ce côté respectable du planning familial, quittent le planning familial, fondent une autre association, plutôt tournée sur la recherche médicale autour de la contraception. Et donc à ce moment-là, il va vraiment y avoir cette volonté de s'inscrire dans les luttes sociales, très clairement, les luttes politiques. Et c'est vraiment autour de cette question de l'avortement que le tournant se fait. Parce que jusque-là, le mouvement français pour le planning familial s'était présenté comme un mouvement qui prônait la contraception pour lutter contre l'avortement. C'était vraiment l'argument principal de dire, voilà, si on diffuse la contraception à grande échelle, ça va permettre de lutter contre l'avortement clandestin. Donc ça va permettre, d'un point de vue sanitaire, médical, d'éviter tous les accidents, mortels ou non, mais qui ont souvent des séquelles importantes ensuite pour les femmes qui ne peuvent plus avoir d'enfants, par exemple. Donc c'était vraiment l'argument principal. Mais à partir des années 70, il y a une nouvelle revendication qui émerge autour du mouvement mouvement de libération des femmes, donc féministe, qui, elles, au contraire, mettent en avant l'avortement comme une forme de libération des femmes. Et donc, justement, autour du manifeste des 343 femmes déclarant avoir avorté dans le Nouvel Observateur en 1971, c'est un premier coup d'éclat important qui revendique le fait d'avoir avorté, qui rend la chose publique, donc quelque chose qui était caché, honteux, devient un objet de revendication. Il y a ça. Il y a ensuite le procès de Bobigny autour de la figure de Gisèle Halimi, donc qui était signataire du manifeste 343 et qui décide de défendre les signataires qui pourraient être attaquées, hein, justement, pour avoir signalé qu'elles avaient avorté, qui finalement se retrouve à défendre une jeune fille victime d'agression sexuelle qui se retrouve enceinte et dénoncée pour avortement. Et donc c'est un procès extrêmement médiatique en 72 qui vont, donc à la fois le manifeste et le procès, vont contribuer à faire de cette question de l'avortement une question féministe prioritaire, mais aussi une question qui intéresse les groupes d'extrême gauche et qui devient une façon de contester l'ordre établi, de contester une loi qui paraît injuste, et d'agir donc à la base. Et à ce moment-là, le panier familial se retrouve en porte-à-faux. Une partie de ces médecins ne veulent pas s'engager pour dire « oui, il faut l'avortement libre ». Ils sont contre cette idée, ils pensent que c'est au contraire, il faut que ça soit quand même contrôlé et médicalisé. Et toute une partie à la base, qui est en contact avec les syndicats, les partis politiques, le mouvement féministe, au contraire, perçoit l'importance de ce mouvement et pense que le planning familial ne peut pas s'exclure de ce mouvement social et politique très important. Et donc c'est cette partie du planning familial qui va réussir à prendre le pouvoir dans le mouvement et à revendiquer aussi l'avortement libre et gratuit. Donc à partir de ce moment-là, il y a vraiment un tournant politique qui va se traduire par un engagement politique très marqué et une volonté de réformer le mouvement aussi de l'intérieur pour le rendre plus démocratique, moins hiérarchique, plus féminisé. Et donc c'est vraiment un tournant majeur.
Et comment réagit l'État face à cette montée? Parce qu'en fait, d'une certaine façon, on appelle au non-respect des lois, donc forcément ça doit poser problème. Est-ce qu'il y a eu des persécutions? Est-ce qu'il y a eu du harcèlement politique?
Alors c'était vraiment une question de rapport de force qui est favorable à ce moment-là au mouvement. Finalement, il y avait vraiment un risque, une inquiétude au début qui s'est vite dissipée en voyant qu'il n'y avait pas du tout de réaction, justement parce qu'on est dans l'après-68 et qu'on se dit s'il y a vraiment une répression de la part de l'État, ça risque au contraire d'aviver le mouvement. Alors il y a eu effectivement ce qu'on pourrait appeler un raté. Donc il y a une femme médecin de Grenoble qui est arrêtée pour avoir fait des avortements, mais ça fait un tel tollé. Il y a vraiment un mouvement qui s'organise à ce moment-là entre le mouvement français pour le panier familial, le mouvement de libération des femmes, l'association Choisir qui a été créée par Gisèle Halimi. Il y a vraiment une coalition qui se fait soutenue par les partis d'extrême gauche et de gauche qui fait que on va finalement étouffer l'affaire, qu'elle va être relâchée et donc qu'il ne va pas y avoir de suite ou de procès. Donc il y a vraiment un sentiment très fort d'impunité à ce moment-là. Et au niveau gouvernemental, un début de réflexion sur effectivement il faudrait changer cette loi, et l'impulsion vient de nouveau, comme pour la loi sur la contraception, de parlementaires qui décident de présenter des projets qui vont finalement être pris effectivement par le gouvernement en 1973. Alors ça, c'est peu connu. Effectivement, il y a une première loi en 1973 qui est préparée par le gouvernement de Pompidou, par le ministre de la Justice et le ministre de la Santé, qui va être discutée au Parlement à ce moment-là. Mais c'est une loi qui ne satisfait en fait finalement personne. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a ce mouvement qui est extrêmement fort pour l'avortement libre, mais qu'en face vient de se créer un mouvement qui s'y oppose. C'est souvent très lié, un mouvement pour, un mouvement contre, le mouvement « Laissez-les vivre ». Qui prend de l'importance aussi, qui réussit à faire des pétitions assez importantes auprès de médecins, d'avocats. Et donc le gouvernement se trouve entre les deux, essaye de faire une proposition de loi qui satisfasse les deux, mais qui finalement ne satisfait personne, et donc qui est rejetée, enfin disons la discussion est reportée à plus tard. Et donc finalement c'est la mort du président Pompidou et les élections présidentielles précipitées, on va dire, de 74, qui vont relancer le débat et complètement changer la manière dont va être posée la question par le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing.
Et la libéralisation de l'avortement était dans les propositions et dans les promesses électorales de Valéry Giscard d'Estaing ?
Oui, tout à fait. Comme pour François Mitterrand, qui est de nouveau candidat, effectivement, ils prennent soin tous les deux de se positionner pour une réforme de la législation sur l'avortement à ce moment-là. Et donc, on voit aussi dans les archives du panier familial, justement, des échanges de courriers, une volonté de toucher ces candidats et de leur demander leur position sur la question. Et finalement, le planning familial appelle en 1974 à voter pour François Mitterrand au vu de ses réponses. Mais effectivement, Valéry Giscard d'Estaing s'était prononcé, s'était montré favorable à une réforme. Donc il l'avait promis que ça serait une des premières réformes, et effectivement, c'est le cas.
Voilà, alors, je dois vous dire que nous avons autour de nous, en dehors d'Alain Lombard, quelques jeunes filles particulièrement amusantes, parce qu'elles sont assez sympathiques, et elles sont en train de nous réclamer un avortement libre et gratuit, ce qui certainement pourrait être... Attendez. Voilà, avortement, contraception libre et gratuit, au cas où vous n'auriez pas compris, je tenais à vous signaler ce qu'elles sont en train de crier derrière moi et ce qu'elles risquent de crier pendant 20 minutes. Aussi, avant qu'elles ne s'essoufflent, nous allons écouter de la musique.
Sister, oh sister, oh, I come to apologize for the time I disrespect you.
Oh, my sister.
I try, yes, I try to find strength every day to go check myself.
Oh, my sister.
For what kind of brother I am, oh, if I talk my sister like a child. For what kind of brother I am, oh, if I chain my sister like a dog. For what kind of brother I am, oh, if I hunt my sister like food. But what kind of brother I am, whoa, whoa.
Oh, my sister.
Brother, oh, brother, oh, I said now we'll call me feminist, yeah. Oh, I declare, say sister, good as brother. Mm-hmm. Brother, oh, 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 brothers, whoa. I said now we'll call me feminist, yeah. Oh, I declare, sister, oh, good as brother. Mm. Yeah. But what kind of brother I am, if I call my sister bitch before blinking eye, then I go shake with fear, oh, to say the word feminist. Feminist. Let me tell you true, my brothers. Let me tell you true, my sisters. The wicked brother no go say it. No, 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 no. Cause you know why you
he go be
free. He go be free, he go be free of the world.
He go be free,
he go be free, he go be free to say.
He
go be free, he go be shaken with the fear.
He go be free,
he go be free, the sister sees the strength.
He
go be free, the sister feels the strength.
He go be free,
he go be free, the sister knows her strength.
He go
be free, the sister smarter than him.
He
go be free, the sister faster than him.
He
go be free, the sister stronger than him. Whoa.
He
go be free before him dick.
He
go be free for him balls. Whoa.
He
go be free for him manhood. Whoa.
He
go be free. He go be free of the world. Whoa, 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 whoa. But stronger brother, no need to fear at all, at all, at all. He go be safe in sister's strength, like him brother. Him go listen sister wisdom, like him brother. Him go rest in sister walk, like him brother. He not the fear him sister, he not hate him sister. He not patronize him sister. Respect him, sister. Oh, strong brothers, strong brothers, strong brothers, strong brothers. Call it now, feminists.
Feminists, feminists.
We go
call a feminist a feminist. Make you call I'm a feminist a feminist. Let me tell you, my brother, see, yeah. Strong brother, call I'm yeah. Only brave brothers, they call I'm yeah. Wake your brother, shut your mouth to oh. Scared brother, shut your trap oh. Strong brother, call it loud oh. Call a feminist a feminist, yeah. We could call a feminist a feminist, oh. Look who is to get our dick. Look who is to get our balls. Look who is to get our manhood, oh.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, alors c'était Sister d'Antibalas, et vous écoutez Les Oreilles Loin du Front. Alors ce soir, nous parlons de féminisme, puisque ce morceau de musique prend bien à le nom qui correspond à notre émission. Et nous parlons de féminisme, et nous parlons essentiellement sur le point de vue de la contraception, puisque nous parlons de l'histoire du planning familial, donc du planning familial, mais aussi de l'histoire de la libéralisation de l'avortement en France. Et là, nous étions dans les années 70, où évidemment, il y avait énormément de gens qui étaient engagés pour demander la dépénalisation de l'avortement. Il y avait évidemment des journalistes, puisque comme on a pu l'entendre tout à l'heure, c'était le Nouvel Observateur qui a publié le manifeste des 343 femmes ayant avorté. Il y avait aussi des avocates qui étaient engagées, comme Gisèle Halimi, qui a défendu au procès de Bobigny cette jeune fille qui s'était fait avorté et sa mère qui avait trouvé l'avorteuse. Il y avait aussi des médecins engagés qui organisaient des avortements en appartement avec le MLAC. Il y avait aussi toutes les femmes du MLF qui étaient là, qui soutenaient ce combat pour la libéralisation de l'avortement. Mais évidemment, tout ce monde de militants, de militantes, qu'ils soient politiques, qu'ils soient plutôt des militants sociaux, comme on dirait aujourd'hui de la société civile, est-ce que ça représente, qu'est-ce que c'est en fait dans l'opinion publique? Et là, en fait, c'est là où on en est arrivé au niveau de notre entretien avec Bibia Pavard, historienne, donc qui fait une thèse sur la contraception et la libéralisation de l'avortement des années 50 aux années 80. Et donc, pour continuer notre entretien, je lui ai demandé justement quelle était la position de l'opinion publique plus générale dans les années 70 sur justement ce sujet-là, c'est-à-dire l'avortement.
Intéressante parce que justement les sondages d'opinion se développent à ce moment-là, au début des années 70, et il va y en avoir de nombreux sur cette question de l'interruption de grossesse. Et on va s'apercevoir que finalement il y a une majorité de la population qui est pour une réforme de la loi sur l'avortement, mais qui reste plus nuancée sur la question de l'avortement libre. En fait, finalement, il y a une volonté de soutenir, enfin, disons qu'il y a un fort mouvement d'opinion qui soutient l'avortement dans certains cas, donc ce qu'on appelle finalement l'avortement thérapeutique, hein, qui est par exemple autorisé si la vie de la mère est en danger, si il y a une pathologie du fœtus, s'il y a des risques sur la santé de la femme, etc. Ça, c'est accepté, mais à partir du moment, l'idée qu'on peut autoriser les femmes à avorter quand elles veulent, ça ne fait pas consensus avant la campagne autour de la loi Veil. Hein. Finalement, c'est quelque chose qui n'est pas totalement accepté et qui n'est toujours pas accepté avec la loi Veil. En fait, c'est une sorte de concession, mais c'est pas vraiment quelque chose qui est complètement accepté. Ça va prendre beaucoup de temps en fait pour que on associe ça à un droit des femmes.
Est-ce qu'il y a des différences en fonction des milieux sociaux ou en fonction des genres, c'est-à-dire les hommes et les femmes n'ont pas le même point de vue ?
Disons que surtout la différence se fait davantage au niveau du positionnement politique, hein, tout simplement, et aussi au niveau effectivement de la pratique religieuse. C'est vraiment là que se voient les ruptures. Au niveau homme-femme, paradoxalement, les femmes sont plus réticentes à l'idée d'avortement libre au départ. Donc effectivement, c'est une minorité qui soutient cette idée d'avortement libre, d'avortement choisi et remboursé par la sécurité sociale. Ça ne fait pas du tout consensus à ce moment-là de la population, mais c'est un mouvement qui va être très implanté au niveau local, et notamment à partir de 1973 avec la création du MLAC, le Mouvement pour la Liberté de l'Avortement et de la Contraception, qui est un mouvement très important à ce moment-là, on pourrait dire un mouvement représentatif des mobilisations de l'après 68, et qui est composé en fait au départ, pour son bureau national, de représentants de la CFDT, du planning familial, du Parti Socialiste Unifié, de groupes d'extrême gauche. Donc il y a vraiment une sorte d'accord qui se fait à gauche de l'échiquier politique autour de cette idée d'avortement libre. Et ce MLAC est formé à l'initiative de médecins militants, le groupe Information Santé. Ce sont des médecins qui vont à ce moment-là revendiquer le fait de pratiquer des avortements. Donc ça, c'est encore un pas supplémentaire par rapport au fait de revendiquer pour les femmes d'avoir avorté. Là, c'est carrément revendiquer d'être hors la loi et risquer aussi d'être rayé, tout simplement, de l'ordre des médecins. Et donc là, il va vraiment y avoir une nouvelle forme de militantisme qui va se mettre en place autour de cette pratique des avortements. Alors, elle est possible, cette pratique, parce qu'il y a une méthode qui vient d'être redécouverte en France, qu'on appelle la méthode Karman, qui consiste à aspirer donc le contenu de l'utérus de manière assez simple, finalement, avec une tige en plastique, une seringue. C'est assez simple dans les premières semaines de grossesse. Et donc, ce que va démontrer cette action, c'est que finalement, l'avortement n'est pas un acte dangereux, que s'il est bien fait, il peut être tout à fait bénin, et surtout, c'est l'idée qu'il peut aussi ne pas être traumatisant. Parce que dans cette méthode, il y a effectivement l'aspect assez simple de l'opération, mais aussi l'idée qu'il ne va pas y avoir d'anesthésie, qu'on va pratiquer ce qu'on appelle à ce moment-là l'anesthésie verbale. Donc le fait d'accompagner la femme venue avorter dans cet avortement à travers des paroles, à travers un soutien physique, et donc ce sont des avortements qui se font hors du contexte médical, qui vont se faire en appartement, qui vont se faire chez la personne qui veut avorter, ou peut-être chez la personne qui a avorté la semaine d'avant. Donc il y a vraiment une idée de création d'un lien très fort à ce moment-là, et de la volonté de aussi sensibiliser ces femmes venues avorter qui ne sont pas forcément impliquées politiquement, mais de leur montrer qu'il y a un combat fort à mener. Donc il y a vraiment un idéal révolutionnaire de subversion en fait de la société qui va se concentrer sur cette pratique des avortements, qui va avoir un impact très important sur les militants qui l'ont vécu à ce moment-là. Et donc ces groupes MLAC se créent partout en France, et donc rassemble des militants venus de milieux très divers, des militantes féministes, mais aussi des militants d'extrême-gauche, des maoïstes comme des trotskistes, donc aussi des militants syndicaux. Donc ça va vraiment permettre une certaine dynamique locale, et on pourrait dire que finalement cette lutte pour l'avortement, c'est un passage obligé pour le mouvement d'extrême-gauche à ce moment-là. Ça devient vraiment un véritable espoir de changer la vie en commençant par changer cette relation à la médecine, en changeant les règles du vivre ensemble, qui a un impact assez fort. Mais c'est finalement, on s'aperçoit que c'est un mouvement extrêmement minoritaire qui est perçu par le gouvernement comme un mouvement d'extrémistes qui est absolument dangereux, et finalement la solution qui va être adoptée, c'est une solution beaucoup plus nuancée, et qui ne va pas du tout affirmer cette liberté d'avortement et cette possibilité d'avorter hors de l'hôpital. C'est pas du tout ce que met en place la loi Veil en 1975.
Voilà, pour revenir au MLAC, moi j'avais vu un film qui est assez impressionnant, qui s'appelle L'histoire d'A, qui je pense a été interdit à l'époque, où on peut voir des femmes se faire avorter, on a vraiment l'impression que c'est un vrai bonheur pour elles, d'une certaine façon, et on voit aussi des gens qui étaient contre, au départ, l'avortement, et qui, face à la situation de leur fille, face à la situation de leur femme, changent complètement d'opinion. Et est-ce que ce film a été t'es vu à cette époque-là?
Alors c'est effectivement un exemple très intéressant. C'est un film qui a été réalisé par ce groupe Information Santé, donc autour de ces médecins militants, qui voulaient justement se servir de ce média pour vraiment diffuser le plus largement le fait que cette méthode est complètement était vraiment révolutionnaire. Et donc le film a été réalisé très rapidement. Effectivement, on y voit un avortement fait avec cette méthode Karman, avec une femme qui vient, qui fait son avortement comportement de manière tout à fait simple, qui boit un café après avec les militants. Donc il y a vraiment cette idée de dédramatiser finalement l'acte d'avortement. Et on y voit aussi les mobilisations sur le moment. Et donc le film a effectivement été prévu pour une sortie en salle. Il a été interdit au dernier moment par le ministre de la Culture. Et finalement, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une véritable diffusion militante. Et donc, à ce moment-là, ça va permettre aussi de développer cette culture militante autour de la question de l'avortement. C'est-à-dire qu'on va faire des copies, des bobines, et qu'il va y avoir des projections organisées par les militants de manière locale, et que ça va permettre de créer un débat, de faire des assemblées, de discuter de la question. Et c'est par cette diffusion militante, finalement, que l'idée d'avortement libre va se diffuser aussi. C'est vraiment la diffusion de ce film, c'est vraiment un lieu très important du militantisme autour de ces questions-là. Et donc effectivement, on le voit apparaître dans les débats parlementaires en 73, ce film qui paraît complètement ahurissant aux parlementaires, qui trouve ça scandaleux de pouvoir dire que l'avortement est quelque chose de bénin. Au contraire, on a la volonté de dire que c'est un acte grave, qu'il ne faut pas les termes employés, c'est les banaliser. Et effectivement, il faut peut-être avec un peu de recul nuancer cette idée d'avortement dans la joie. Finalement, effectivement, il y a un énorme espoir militant et on le ressent dans les textes, dans les films de l'époque. Mais il y a certaines critiques qui vont être mises en avant petit à petit, notamment par les féministes qui vont dire que c'est peut-être un peu exagéré de dire que c'est une méthode qui ne fait pas mal, que ça peut faire mal pour certaines personnes et que effectivement, on a tendance à minimiser l'impact psychologique sur les femmes. Effectivement, avec le temps, on s'aperçoit que c'est quand même pas si simple d'avorter, c'est pas non plus si simple d'être la personne qui avorte. Hein. Certaines personnes commencent à faire des avortements militants, mais s'aperçoivent que c'est trop dur émotionnellement, donc c'est quand même une réalité qui est plus nuancée dans les faits. Il va y avoir aussi une critique féministe de la manière dont le MLAC est organisé, en disant que finalement on se retrouve dans une situation où ce sont encore les médecins, même militants, qui ont un rôle, le rôle le plus important, que ce sont souvent des hommes, tandis que les personnes qui sont chargées de faire cette anesthésie verbale, d'accueillir les femmes, d'être dans un rôle de soins, ce sont souvent des femmes. Donc on a tendance à reproduire les rôles de genre habituels. Donc il y a une critique qui va se faire quand même à l'intérieur. Il va y avoir aussi un essoufflement du mouvement qui va durer finalement plusieurs mois. On s'attendait pas à ce que ça soit aussi long. Donc il va y avoir ce débat, est-ce qu'il faut continuer à faire des avortements? Est-ce que finalement on n'est pas en train de se transformer en bonne sœur rouge, hein, c'est un peu le terme employé à l'époque. Est-ce qu'on n'est pas en train de pallier les manques du gouvernement? Est-ce que ce qu'il faudrait, ça serait pas au contraire revendiquer une loi et arrêter de faire des avortements pour que la demande soit très très forte et que ça permette de faire évoluer le processus parlementaire? Donc c'est finalement un mouvement très divers, très riche, avec beaucoup de débats, mais qui a énormément marqué les militants qui ont participé à cette époque.
Et finalement, on en aboutit à un processus parlementaire, puisqu'il va y avoir une loi qui va passer.
Effectivement. Et alors, ces mouvements d'extrême-gauche vont finalement quand même participer à ce processus parlementaire. C'est ça qui est assez paradoxal, c'est qu'il y a la volonté, une forte volonté révolutionnaire, mais en même temps, une volonté de réforme. Et donc il va y avoir des auditions qui vont se faire, notamment dans les commissions parlementaires, mais aussi auprès de la nouvelle ministre de la Santé, donc Simone Veil, qui va chercher quand même à auditionner ces mouvements, notamment le mouvement français pour le planning familial et l'association Choisir. Et donc il y a une participation à ce mouvement parlementaire et la volonté de manifester les jours de décision politique. Donc effectivement, ça va aboutir à un processus parlementaire qui est, bon, très connu, hein, très difficile, qui va demander une grande habileté de la part de Simone Veil, qui va essayer de donc créer consensus et de tirer les leçons de l'échec de la loi précédente de 73 qui n'avait pas du tout fonctionné, en essayant de davantage donner pour les personnes qui sont donc notamment le groupe parlementaire du Parti Socialiste et du Parti Communiste qui sont pour l'avortement libre, donc donner certaines garanties à ces groupes-là qui sont finalement les groupes qui vont soutenir la loi au Parlement et ne pas heurter non plus l'aile droite du Parlement, en disant bien que l'avortement n'est pas un droit, mais que c'est un remède pour une situation inextricable, extrêmement difficile pour les femmes, et donc qu'il ne s'agit pas de revendiquer un droit, mais d'autoriser des femmes en situation de détresse à remédier à cette détresse. Donc il y a vraiment cette idée qui est centrale. Et donc le travail parlementaire va être très important. Simone Veil a un attaché parlementaire qui va vraiment essayer d'aller convaincre le plus de députés possible. Et finalement, la loi passe avec peu de voix d'avance. Mais on voit que ce n'est pas encore une situation de consensus parce qu'elle est votée pour 5 ans, elle est mise à l'essai pour 5 ans, et elle va être de nouveau votée en 1979. Donc elle passe difficilement et sans que l'idée de libération des femmes soit admise.
Et que dit cette loi exactement ?
Alors cette loi autorise l'interruption volontaire de grossesse, dans une certaine limite de temps, à l'hôpital. Elle n'est pas remboursée, cette interruption, par la Sécurité sociale, et elle n'est, donc l'interruption de grossesse n'est pas non plus... on ne peut pas faire de la publicité autour de cette opération, mais donc elle est autorisée en cas de détresse, c'est le terme qui est dans la loi, donc c'est un terme assez vague, et donc cette détresse va être déterminée par un entretien préalable avec des médecins et des personnels sociaux qui sont qui vont ensuite autoriser la femme à interrompre sa grossesse. Donc on revient dans le milieu médical, donc on revient dans l'hôpital. Effectivement, il va y avoir un contrôle médical fort. Et on met en avant cette idée justement de détresse, non pas de choix. C'est parce qu'on a un problème grave que l'on peut avorter, non pas parce qu'on n'a pas envie d'avoir un enfant à ce moment-là.
Est-ce que le mouvement pour le planning familial joue un rôle dans l'avortement à cette époque-là, après la loi Veil ?
Oui, effectivement, le mouvement français pour le planning familial va toujours essayer de se positionner à la fois dans le mouvement social, mais en même temps d'avoir une certaine reconnaissance publique. Et donc du coup, il y a un certain nombre de centres de planning familial qui existent et qui vont essayer de s'inscrire dans ce processus d'entretien préalable et qui vont effectivement obtenir cette possibilité d'avoir des consultations préalables à l'interruption de grossesse. Donc effectivement, il y a un rôle important à ce niveau-là de service public qui va se mettre en place avec un système de subventions de l'État donc qui sont un peu timorées dans les années 70, mais qui vont vraiment être très importantes après l'élection de François Mitterrand en 80. Donc il y a vraiment cette volonté d'avoir une reconnaissance en tant que service public. Donc effectivement, à ce moment-là, le planning familial... fait des entretiens préalables à l'interruption de grossesse et fait aussi des études pour savoir qui vient demander cette interruption de grossesse, qui sont les personnes qui viennent hors délai, ces 10 semaines de grossesse qui sont autorisées à ce moment-là. Donc il y a tout un travail aussi de construction de données qui vont pouvoir servir et qui vont servir à constituer des dossiers pour la reconduction de la loi en 79. Donc c'est effectivement un travail de terrain important.
Alors là, tu disais que c'était vraiment quasi un service public qui était fait par le mouvement du planning familial. Et donc on voit qu'il y a eu une certaine dynamique dans les années 70 jusqu'à l'élection de Mitterrand. Et après, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Est-ce que c'est toujours bien vivant ?
Oui, effectivement, ce qui va se passer, c'est qu'on parle souvent, en 1981, d'une institutionnalisation du planning familial. Effectivement, la présidente, celle qui était la présidente, ancienne hôtesse d'accueil depuis 73 du planning familial, entre dans le gouvernement en 81, dans le ministère des droits des femmes d'Yvette Roudy. Donc il y a vraiment une volonté de participer directement à ce moment-là à un nouveau gouvernement. Et en 82, il y a effectivement l'obtention du remboursement par la Sécurité sociale de l'interruption de grossesse. Donc on parle d'institutionnalisation aussi parce qu'il va y avoir des subventions de plus en plus importantes. C'est vraiment une reconnaissance étatique de ce rôle primordial du planning familial, que ce soit pour les consultations de contraception, mais aussi pour l'éducation sexuelle, notamment à l'école, et puis pour ce rôle dans l'interruption de grossesse. Et puis finalement, Après 80, il va y avoir donc ce rôle de plus en plus institutionnel et puis l'élargissement des questionnements aussi. Il va y avoir un intérêt de plus en plus grand pour les questions de l'homosexualité, puis ensuite sur les questions féministes plus larges, il va vraiment y avoir une revendication d'un féminisme assez ouvertement, alors que ce n'était pas vraiment le cas auparavant, donc sur les questions des femmes battues notamment. Donc il y a vraiment une implication dans toutes les questions féministes et cette institutionnalisation qui se traduit par des subventions étatiques importantes. Donc une volonté de se positionner à la fois en dehors de l'État, en restant un mouvement ancré dans le social, dans le politique, mais en même temps qui joue un rôle de service public, qui est d'utilité publique, et donc qui, de ce fait, jouit de subventions. Et donc, effectivement, ça a été remis en cause, on l'a vu très récemment. La décision n'est pas, enfin, a été remise en cause finalement. Il va y avoir une poursuite de ces subventions du fait de la réaction, notamment d'une large réaction au niveau de la population qui a signé massivement une pétition de soutien au planning familial. On voit à quel point son rôle est crucial aujourd'hui et que ça serait impossible de le remettre en cause. Et donc on voit un parcours très important depuis 1956, où il y avait une impossibilité de s'afficher ouvertement pour la contraception, à aujourd'hui où il y a un véritable soutien public à l'idée de libre contraception, mais aussi de libre avortement, qui est conçu comme un droit des femmes inaliénable.
En même temps, il faut rester vigilant.
Effectivement, il faut rester vigilant parce que c'est toujours une question politique, et lorsque la droite arrive au pouvoir, il y a souvent cette remise en cause de l'idée de droit des femmes à avorter. On l'a vu en 86, ça a été le cas, donc il y a toujours ce risque de vouloir jouer en fait sur cette image de droit des femmes autour du libre choix en fait de la maternité. Mais il y a vraiment une base populaire, je pense, très importante de soutien.
Oui. Oui, il y a une base populaire très importante, une base populaire qui a besoin d'argent pour financer le planning familial, puisque comme on l'a dit en fin d'entretien, en 2009, il y avait un projet de réduction du budget de près d'un tiers, alors ça a été reconduit, mais in extremis. Donc si vous voulez de l'argent au planning familial, c'est une association, donc vous pouvez donner très facilement, allez sur leur site internet pour avoir les coordonnées et les façons de donner, donc c'est www.planning-familial.org.